Conférence en Corée du Sud du 13 au 15 octobre 2023. La manifestation de la vie éternelle. Message 3. Il est toujours bon, lorsque nous nous réunissons, de prier. Pas de longues prières. Des prières courtes. Ainsi, j'espère que cela deviendra notre habitude dans la maison de Dieu. Louez le Seigneur. Avant de partager au sujet de 1 Jean, peut-être que quelqu'un parmi vous a une question ou un fardeau que vous voudriez partager, ou au sujet duquel vous voulez poser une question, sentez-vous libre. Dans Jacques, il est parlé de mettre en pratique la parole et de ne pas se borner à l'écouter. J'aimerais être un chrétien mûr, je ne veux pas rester un bébé dans une situation spirituelle. Alors, quelle est la frontière entre être un bébé et être mûr? Comment? Il n'y a pas de frontière. Comme dans la vie humaine, continuellement, en étant nourri, nous croissons. Année après année. Ainsi, je ne pense pas que même parmi les humains, nous puissions parler de frontières entre les bébés et les adultes. Parce que nous croissons, nous changeons continuellement. Peut-être que cette année, tu vois pas beaucoup de différence, mais dans 2 ans, oui. Ton fils est assis à côté de toi. Est-ce que tu as jamais pensé à une frontière entre toi et ton fils? Non. Parce que la croissance est continuelle. Le mois prochain, ton fils aura changé. On espère. N'est-ce pas, Brandon? Après une année, à nouveau, tu peux voir la différence. Mais malheureusement, nous chrétiens, dans notre vie spirituelle, nous ne croissons pas, et ça, c'est le problème. Laissez-moi vous partager au sujet d'Éphèse, l'église à Éphèse. Non, excusez-moi. L'épître de Paul aux Éphésiens. Chapitre 4. Seigneur Jésus. Au chapitre 4, commençons par le verset 12. Verset 11. Il est dit que le Seigneur nous a donné des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Ça, c'est très normal. Parce que nous avons tous besoin de quelqu'un plus âgé qui nous aide à croître. Ton fils a besoin de toi pour l'enseigner. Si tu vas à l'université, il faut des professeurs pour t'enseigner, c'est normal. Tes parents t'ont appris beaucoup de choses, n'est-ce pas, BJ? Mais pas seulement tes parents. Mais après, tu es allé à l'école. Tu as étudié à l'université l'architecture. Est-ce que tu ne pouvais pas rester juste à la maison et apprendre par toi-même? Non, il te faut des enseignants, des professeurs pour t'enseigner. C'est la même chose spirituellement. Mais tu ne peux pas toujours rester au même niveau. Tu as étudié 4-5 ans? Est-ce que tu veux rester 10 ans à l'université? Non, certainement pas. Parce que tu veux continuer. Tu veux progresser. Spirituellement, c'est la même chose. Nous avons tous besoin de continuer, de croître spirituellement. Tout dans ce monde, tout ce qui est vivant a besoin de croître. Même un arbre dehors a besoin de grandir. Ou est-ce que tu voudrais juste que ça reste une petite semence qui ne grandit pas? Ça change toutes les années, n'est-ce pas? Toi, tu as à peu près 26 ans, n'est-ce pas? As-tu jamais regardé tes photos d'il y a plusieurs années? Oui. Est-ce que tu vois des changements? Oh oui. Chaque année, tu changes. Mais malheureusement, les chrétiens ne changent pas. Année après année, ils restent les mêmes. Ce n'est pas juste. Là, quelque chose est faux. Nous avons reçu la vie éternelle en nous. Et cette vie en toi doit mûrir et grandir. Laissez-moi vous lire ce que Paul dit dans Éphésiens. Premièrement, il dit, le Seigneur a donné certains pour être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, c'est berger en fait, et des docteurs. Malheureusement, nous faisons une différence entre ce groupe de gens, puis les croyants qui écoutent là, assis, de semaine en semaine pendant des années, peut-être pendant 50 ans. Combien de temps es-tu allé à l'université? Pas 15 ans, pas 50 ans. Imagine si tu vas à l'université pendant 10, 20 ans et tu n'as jamais ton diplôme. John, tu es allé à une autre université en Californie. Combien de temps? 6 ans, t'es sûr? Seulement 6? Est-ce que tu dois appeler tes professeurs chaque jour lorsque tu as travaillé chez Microsoft? Tu as appris. Et lorsque tu apprends, à la fin, tu seras comme ton professeur. Tu sauras tant de choses. Tu n'auras plus besoin de poser la question à tes professeurs après 5 ans. Mais comment ça se fait que nous, chrétiens, nous sommes assis tous les dimanches pendant je ne sais combien d'années? Ça, c'est parce que la parole nous dit ici. Oui, on peut de temps en temps avoir une conférence. Mais imagine qu'on ait une conférence chaque semaine. Laissez-moi continuer à lire. Verset 12, il dit, c'est pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Cela signifie que les apôtres, prophètes, bergers, tout cela, ils ne bâtissent pas l'église du Seigneur directement, mais ils doivent équiper tant de saints pour faire cette œuvre du ministère. Maintenant, BJ, tu es architecte, n'est-ce pas? Es-tu architecte? Un vrai? Bien sûr que oui. Parce que tu es équipé. Tu es allé dans une très bonne université pour les architectes en Californie. Et maintenant, tu es architecte. C'est toi. Tu es venu ici et tu regardes pour apprendre quelque chose de plus concernant l'architecture. Mais si tu vas dans une dénomination, année après année, il n'y a que le pasteur qui bâtit. Je suis le pasteur et je suis responsable de toute l'église. Et vous, vous écoutez juste ce que j'ai à dire. Laissez-moi vous demander. Pendant combien de temps le Seigneur Jésus sur cette terre a entraîné les disciples? Combien d'années? 3. Non, Seigneur, tu dois rester 30 ans. Si tu lis l'évangile de Jean, au chapitre 14, le Seigneur a dit à ses disciples, je dois partir. Et bien sûr, les disciples étaient très déçus. Non, Seigneur, tu ne peux pas partir, tu es le Christ. Qu'est-ce que tu veux dire, tu dois partir? Qu'a dit le Seigneur? Je dois partir parce que si je ne m'en vais pas, alors le Saint-Esprit n'entrera pas en vous et ne restera pas en vous. Et quand l'Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Pas d'un seul coup, bien sûr, mais jour après jour, le Saint-Esprit qui habite en nous nous enseigne et nous conduit de tant de manières. Et bien sûr, le Seigneur a utilisé Paul, Jacques, Pierre, et Jean. Mais où sont-ils? Où est Jacques aujourd'hui? Est-ce que Jacques est ici? Non, il n'est pas là. Mais la parole de Dieu par Jacques est écrite dans la Bible et le Saint-Esprit t'enseignera. Le Seigneur ne va pas partir sans envoyer, laissez-moi utiliser ce mot, le professeur Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit, dans Paul par exemple, puisque nous lisons cela maintenant, qui va équiper chaque frère et sœur afin que tu fasses l'œuvre du ministère et pas le pasteur. Lisons le verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14, Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Brandon, quel âge as-tu? 14, n'est-ce pas? Ah, 13. C'est son jeune frère. Vous ressemblez tellement les deux. Est-ce que tu veux rester à 13 ans pour toujours? Non, bien sûr que non. Mais même si tu le voulais, tu n'as pas le choix, tu vas de toute façon grandir. Est-ce que tu aimerais que ton fils reste à 13 ans? Non, bien sûr que non. Non. Toi, en tant que père, tu veux pas que ton fils reste à 13 ans. Est-ce que tu crois que notre Père céleste veut que chacun de nous reste des bébés en Christ? Comment ça se fait que tu sais comment grandir dans ta vie humaine, mais tu n'apprends pas à grandir dans ta vie spirituelle, qui est bien plus importante que ta vie humaine? Ainsi, nous ne serons plus des enfants. Nous ne serons plus des enfants. Flottant et emportés à tout vent de doctrine. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous avons tant de problèmes. Parce que les enfants ont toujours beaucoup de problèmes. Flottant et emporté à tout vent de doctrine. Ce groupe t'enseigne ceci et cela va t'envoyer dans cette direction. Et un autre groupe, ça, le vent va te pousser dans une autre direction. Comme un petit bateau sur la mer qui est flottant et qui est emporté à tout vent de doctrine par les vagues. Et pire encore, Paul écrit ici, par la tromperie des hommes. Beaucoup de groupes chrétiens, désolé, mais ils influencent les croyants de la mauvaise manière, d'une fausse manière. Je ne veux pas utiliser le mot tromperie. Pouvez-vous imaginer, vous allez dans une université et le professeur vous enseigne de fausses choses? C'est pourquoi tu dois lire la Bible toi-même. Dieu ne va jamais te donner un livre, la Bible, que tu ne puisses comprendre. Mais si tu ne te préoccupes pas du Dieu vivant, c'est ok, c'est ta propre décision. Mais si tu veux connaître Dieu, tu dois venir à la parole parce que c'est sa parole. Tu ne peux pas juste te reposer sur d'autres personnes. Dans Actes, Paul est allé dans une ville, et c'est la ville de Bérée. Et lorsque Paul leur prêchait l'évangile, ils n'ont pas juste cru Paul, mais Et ils ont vérifié dans les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était exact ou non. Paul dit qu'ils sont plus, quoi? Plus honorables, plus nobles, parce qu'ils ne croient pas aveuglément. Ils sont rentrés à la maison et ont vérifié si les paroles de Paul étaient véritables ou non. Mais si tu ne vérifies pas et que tu ne lis pas la Bible toi-même, tu ne vas pas savoir si aujourd'hui je te dis la vérité ou pas. Ou si quelqu'un d'autre qui parle de la Bible dit la vérité. Ne pense pas que nous ne puissions pas comprendre la Bible. Particulièrement, le Seigneur t'a donné l'onction dans ton esprit, dans ton cœur. Allons dans 1 Jean 2. Jean 2, Jean 2, verset 20. On lit d'abord le verset 20. Paul avertissait il a un problème avec son iPad. Dans 1 Jean 2 verset 20, il dit: pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Au verset 19, Paul, non, verset 18, Paul parle des esprits des antéchrists. Il y en a beaucoup qui sont contre Dieu, contre Christ. Bon, pour raccourcir l'histoire, on va au verset 20. Mais vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. La parole onction signifie l'esprit de Christ. Christ est celui qui est oint. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ en toi qui t'enseigne. Et il dit: tu as reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Ou il dit dans une autre version: vous savez tout. Est-ce que tu sais tout? Puis au verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Maintenant, si nous, chrétiens, après être nés de nouveau et que l'Esprit Saint entre en nous, et nous ne savons pas qu'il est là, et nous écoutons tant de prédicateurs, alors on ne grandit pas dans la vie. Ça m'est égal si tu écoutes à tant de messages pendant des années, mais que tu ne grandis pas dans ta vie spirituelle. Mais si jour après jour, nous apprenons tous à écouter l'onction en nous, alors spirituellement on grandit. Oui. Ainsi, il n'y a pas de frontière. Si tu as une frontière entre un bébé et un adulte, Ça veut dire que les adultes restent adultes et les bébés restent bébés. Est-ce que tu as une frontière dans ta famille? Parce que tes enfants grandissent tout le temps. Ainsi, il n'y a pas de frontière. Parce que tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons continuellement grandir. Nous ne pouvons pas rester les mêmes. Si tu restes le même, ta vie spirituelle n'est pas normale. Tu dois apprécier que le Seigneur nous ait donné cette vie merveilleuse en nous. Mais ce n'est pas seulement une vie, c'est une vie qui grandit. Cet arbre grandit cette année et l'année prochaine, il grandit encore plus. Alors où est la frontière? Il n'y en a pas. Tant qu'on est vivant, on continue à grandir. Je ne peux pas dire que j'ai 80 ans aujourd'hui et que j'ai arrêté de grandir. Est-ce que tu arrêtes de grandir? Tu mets une frontière? Lorsque tu as 26 ans, tu mets une frontière et tu arrêtes de grandir. Non, tu continues de grandir. Tu continues. C'est une chose très sérieuse parmi nous les chrétiens. C'est très sérieux. Ainsi, la Bible ne nous parle pas d'une frontière de croissance, mais il faut continuer à croître. Tant que le Seigneur n'est pas revenu, toi et moi, nous devons tous grandir. Nous devons devenir mûrs. Il y a tant de choses encore à apprendre. BJ, tu as fini l'architecture. Est-ce que tu as déjà tout appris? Non. Il y a encore beaucoup plus de choses que tu dois apprendre. Et tu es responsable d'apprendre. Tant que tu es ouvert au Seigneur et que tu apprends à écouter l'onction intérieure qui t'enseigne toutes choses. La différence entre un professeur qui t'enseigne, c'est différent de l'onction qui t'enseigne. Quelle est la différence? L'enseignant t'expliquera la Bible. Mais il ne peut pas te donner cette vie pour que tu grandisses. Mais lorsque l'onction t'enseigne, il te oint avec l'huile d'onction. Il s'ajoute lui-même à toi. Ça, c'est une grande différence. C'est pourquoi, lorsque Seigneur Jésus était sur terre, les gens réalisaient que ce qu'il disait était différent de la parole des scribes et des pharisiens. Parce que l'enseignement du Seigneur, lorsqu'il parlait, te donne la vie et l'esprit. Mais lorsque les pharisiens t'enseignent, il te dit juste ce qu'il faut faire, mais lui-même ne le fait pas. C'est pourquoi le Seigneur dit, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Mais l'onction est très différente. C'est comme toi qui enseignes tes enfants. C'est très différent que l'enseignement de l'école, à l'école. C'est très différent. C'est pourquoi nous apprécions un genre concernant la vie, pour la croissance de la vie. Nous avons tous besoin de l'onction sainte. Sans l'onction, personne ne peut croître. Ne pense pas que Dieu t'ait juste sauvé et te laisse là. Non, il veut vivre en toi. Il veut vivre à l'intérieur. Lisons le chapitre 4 dans 1 Jean 4. Lisons 1 Jean 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Amen. C'est en ceci que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique pour te sauver du péché. Est-ce ça, cela? Est-ce que c'est écrit ainsi? Oui, bien sûr, il a envoyé son Fils unique pour te sauver. Sans quoi? Tu serais condamné par Dieu et tu périrais. Mais ça, c'est du côté négatif. Mais il dit qu'il a envoyé son Fils afin que tu vives par lui. Afin que tu vives à travers lui. C'est très différent. Le Seigneur ne voulait pas juste nous sauver, mais il voulait entrer en nous pour être notre vie. Si nous connaissons Jean 3, 16, c'est un verset très connu. Je pense que tout le monde le connaît. Dieu a envoyé son bien-aimé, son Fils unique, pour nous sauver, afin que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Mais ici, dans la première épître de Jean, il dit que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. Pas seulement que nous soyons sauvés du jugement éternel de Dieu, mais afin que nous puissions vivre à travers lui. Parce que nous sommes déchus. Si tu vis par toi-même, tu vas faire beaucoup d'erreurs, tu vas faire beaucoup de péchés, commettre beaucoup de péchés. Es-tu parfait, Bidji? Qu'en est-il de David? Parce que tu vis par toi-même, par ta vieille vie, ta propre vie. Qu'en est-il de toi, Chuchang? C'est notre expérience à tous. Nous avons fait tant de choses qui ne sont pas justes. À cause de la nature humaine déchue. Paul dit que le péché est entré dans notre chair, que nous avons tous péché. N'as-tu jamais péché? Juste une fois? Deux fois? 10 fois? Tu as même perdu le compte. Et le Seigneur est venu, oui, pour ôter nos péchés. Il a payé la dette. Il est appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est l'offrande pour le péché. Mais, après avoir ôté notre péché, est-ce que tu ne pèches plus? Tu pèches encore? Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas appris en tant que chrétiens à vivre par Christ. C'est une autre vie qui entre en nous. C'est une vie différente. C'est une vie très différente. Ainsi le but, pourquoi le Seigneur nous a sauvés, c'est afin d'entrer en nous pour que tu vives par lui. C'est quelque chose de différent. Tu deviens un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Tu as la vie de Dieu en toi. D'où as-tu obtenu ta vie humaine? De ton Père, qui est assis là à côté. Mais ça, c'est la vie humaine. C'est très différent que la vie d'un chien, n'est-ce pas? Peux-tu imaginer, lorsque tu as cru au Seigneur Jésus-Christ et que le Saint-Esprit, la vie de Dieu, est entrée en toi, maintenant la Bible dit que tu es devenu un enfant de Dieu et que Dieu est devenu maintenant ton Père. Puisqu'on est déjà dans 1 Jean, on va aller dans 1 Jean 3. Il faut lire depuis le verset 1. Verset 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le verset dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ça n'a pas encore été manifesté. Plus tu grandis, plus tu changes, n'est-ce pas? Est-ce que tu as expérimenté des changements spirituellement? Oui, bien sûr. Pas tout d'un coup, mais graduellement. Plus tu grandis, plus tu seras comme lui, parce qu'il grandit en toi. C'est pourquoi nous, chrétiens, devons croître spirituellement. Et ta croissance ne peut pas dépendre de quelqu'un d'autre. Comment as-tu grandi? Est-ce que ton père t'a aidé à grandir? Il t'a tiré un peu chaque jour? Ça dépend de toi. Tu dois apprendre, tu dois te nourrir, tu dois manger, tu dois t'exercer. Il y a tant de choses que tu dois faire pour grandir. Si tu dépends tout le temps de ton père pour grandir, non. Mais ton père t'a aidé. Il t'a donné tout ce dont tu avais besoin lorsque tu étais jeune. Est-ce que tu ne crois pas que ton Père céleste va faire la même chose pour ses enfants? Ainsi, il est dit ici, bien-aimé, au verset 2, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais cela n'a pas encore été manifesté parce que nous sommes dans le processus de la croissance. Ainsi, plus tu crois, plus tu seras comme lui. Mais si nous ne grandissons pas, nous ne serons pas comme lui. Et lorsque le Seigneur reviendra, ce n'est pas bon si tu n'es pas comme lui. Ainsi, cela n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu est juste, c'est le Dieu de gloire. Qu'en est-il de nous? Nous sommes des êtres humains déchus. Nous vivons où? En Californie? Tout se dégrade. J'habitais à San Francisco. C'était une ville très belle. Mais maintenant, si tu vas là-bas, c'est très différent. Pourquoi? Parce que l'être humain, dans la nature, est déchu. Malheureusement. Celui qui règne, celui qui est au sommet là, le gouvernement, je ne veux pas parler de ça, mais il y a tant de corruption. Ils ne se préoccupent pas des gens, ils se préoccupent de leur puissance. C'est très différent. La ville de Los Angeles est très différente. Seattle, c'était une ville aussi magnifique. À Portland aussi, tu vas à Chicago, à New York. Je ne dis pas que tout est mauvais. Mais si tu comprends ce qui se passe aujourd'hui. Et la Bible nous donne une explication très merveilleuse. Les gens ont besoin de la vie de Dieu. Mais c'est leur choix. Dieu ne va jamais forcer personne. De Genèse à Apocalypse, Dieu a donné la liberté de choisir. Mais souviens-toi, fais le bon choix, parce que sinon, un jour, quand le Seigneur revient, tu devras lui rendre compte, tu devras faire face à son jugement. Tu dois réaliser que Dieu est un Dieu d'amour. Il n'a aucun désir de nous juger. Il nous offre un salut merveilleux. Le Seigneur Jésus est venu pour mourir pour nous, pour porter le péché du monde sur lui. Alors, on peut lire 1 Jean 1, puisque déjà on est dans Jean. Je ne suis pas le résumé, on peut l'oublier. Le message de la vie au verset 5. La nouvelle. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. 1 Jean 1, 5. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Et le verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. On peut lire jusqu'à la fin. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. On peut continuer jusqu'au chapitre 2, parce que les deux premiers versets, c'est la continuation du chapitre 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Dieu est lumière. Tu ne peux pas te cacher de lui. Non. Souvenez-vous, Jean parle à des chrétiens ici, pas à des incroyants. Et le premier message, en ce qui concerne la vie de Dieu qui a été manifestée, on a vu ça hier soir. Le premier message concernant cette vie merveilleuse de Dieu, c'est que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres du tout. Nous sommes enfants de lumière. Au moment où Christ est entré dans notre être, la vie est entrée en nous. À ce moment-là, tu confesses tes péchés, tu te repens, tu confesses tes péchés à Dieu. Mais les êtres humains déchus, tu fais quelque chose de faux ? As-tu fait quelque chose de faux ? Non. Même les enfants, n'est-ce pas ? Un petit enfant de 2 ans, tu lui demandes, as-tu mangé ce bonbon ? Non. Qui a enseigné aux enfants à mentir ? Est-ce que tu as cassé cela ? Non. Je me souviens, lorsque j'étais un petit enfant, j'aimais jouer. Avec une épée. Et j'ai cassé quelque chose, un rideau. Et je l'ai remis. Non, je l'ai cassé. Qui a fait cela? Ma maman a demandé. Pas moi. Alors, ma maman a demandé à la servante, est-ce que c'est toi qui as fait cela? Mais ma conscience me travaillait. J'avais peut-être 5 ans à ce moment-là. Alors j'ai confessé à ma maman, je l'ai fait, c'est moi. Nous sommes dans les ténèbres. Nous mentons. Non, j'ai rien fait de faux. C'est un mensonge. Et la vérité n'est pas en nous. Mais Dieu nous aime. Il veut nous sauver. Nous sauver de l'esclavage du péché. Et il parle à des chrétiens. Je connais tant de chrétiens qui ont menti. Même des prédicateurs. Mary peut témoigner. À des anciens frères que je connaissais. Concernant quelque chose de très sérieux qui s'était passé, il a menti. Je lui ai dit, non, frère, tu sais exactement ce qui s'est passé. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ment? Jean dit, si tu dis que tu n'as pas de péché, tu mens et la vérité n'est pas en toi. Ai-je en dit quelque chose de très sérieux? Si nous disons que nous avons de la communion avec Dieu et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Dieu sait tout. Quel est le psaume qui dit « Sonde mon cœur » Le psaume 139. Je suis contente que tu t'en souviennes. Dieu sonde les cœurs de chaque homme. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Et à la fin de ce psaume, il dit encore, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. N'est-ce pas? Est-ce que j'ai raison? Psaume 139, verset 23. Nous avons tous besoin de lumière pour connaître notre condition. S'il n'y avait pas de lumière ici, nous ne verrions rien. Tu penses que tout est si propre, mais jusqu'à ce que la lumière vienne, et là tu vois. Tu vois ce qui est caché dans ton cœur. Tu penses que les gens religieux sont meilleurs, n'est-ce pas? Lorsque Jésus est venu sur cette terre, les pires à ce moment-là, ceux qui ont persécuté Christ, ce n'était pas le peuple, mais les chefs, les scribes, les pharisiens. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ce sont des hypocrites. Finalement, ils ont crucifié le Seigneur Jésus. Et dans Jean, on vient de le dire, lire, l'homme aime les ténèbres plus que la lumière. C'est pourquoi, lorsque tu fais quelque chose de faux, qu'est-ce que tu vas faire? Tu te caches, afin que personne ne le voie. Lorsque tu fais quelque chose de faux, est-ce que tu veux que les gens le sachent, le voient? Non, tu te caches. Cela veut dire que tu es dans les ténèbres. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être des enfants de lumière. Ne te cache pas. Et si tu fais quelque chose de faux, que dis-je? Si nous confessons nos péchés, cela veut dire que tu ne les caches pas. Confesse au Père. Il est fidèle et juste pour te juger. Non? Non. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est fidèle pour pardonner, te pardonner. Frère Jean, lorsque ton fils fait quelque chose de faux, que fais-tu? Tu le jettes dehors? Que fais-tu? Tu lui pardonnes. C'est si merveilleux. N'est-ce pas? Est-ce que ton père t'a jeté dehors? Non. Parce que tes parents t'aiment. Qu'en est-il de notre Père céleste? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Pourquoi est-il si fidèle? Parce qu'il a déjà payé le prix et il est juste. Et notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est juste, est notre avocat devant le Père. Ainsi, le Père doit te pardonner. Parce que le Seigneur Jésus va dire au Père, j'ai déjà payé le prix pour lui. Ainsi le Père juste dira, oui, je lui pardonne. Il est fidèle et il est juste. Juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pas seulement quelques-unes, mais toutes nos iniquités. Ça, c'est l'amour du Père. Peux-tu imaginer, notre Créateur veut être notre Père. C'est vraiment surprenant. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et Jean a écrit, j'écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Il parle pour vous, toi. Christ lui-même est la propitiation pour nous. Comment est-ce que tu comprends cette parole, propitiation? Une victime expiatoire, qu'est-ce que c'est en coréen? Comment est-ce que tu comprends? Comment est-ce que tu définis ce mot? C'est quelqu'un qui fait la paix entre deux parties. Alors comment est-ce que Christ a fait la paix entre les deux parties? En payant la dette. Si je te dois 1 million de won, et je ne peux pas les payer, il n'y aura jamais la paix entre toi et moi, n'est-ce pas? Mais on a un millionnaire on a un milliardaire, frère Sam, qui a payé la dette pour moi. Alors, il n'y aura pas de problème entre toi et moi. Il est la propitiation, ça veut dire tout ce que Dieu exige de toi et que tu dois à Dieu, Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Je pense que si Frère Sam paye le million de won, je vais tellement l'aimer, je lui dirai merci. Tu penses que je dirais non, je veux pas? Je veux pas les accepter? Si je le rejette, si je rejette ton offre, alors je devrais faire face au juge moi-même et je serai mis en prison. Tu vas me mettre, tu vas me faire passer par un jugement. Il est la propitiation. Ça veut dire qu'il a payé tout le prix. Il est la rançon. Il a payé la rançon. La Bible appelle cela une rançon pour te libérer. Et il est dit ici, ce n'est pas seulement pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est pour cette raison que quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ et l'accepte comme sa propitiation pour les péchés, Dieu lui pardonne tout. Ses dettes. Est-ce que c'est pas bon? Ou est-ce que tu préfères payer le prix toi-même? Que veux-tu faire, BJ? Tu préfères être mis en prison? Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu est lumière pour t'exposer afin que tu puisses te repentir. Parce que si tu le caches, alors il n'y a pas de salut. Alors, tu dois payer le prix toi-même. Lorsque le jour du jugement viendra, est-ce que tu préfères faire cela? Alors louez le Seigneur. Le Seigneur n'est pas seulement ton sauveur pour enlever tes péchés. Maintenant, il est même ton avocat pour être devant Dieu. Et si tu fais quelque chose de faux, le Seigneur va dire au Père, j'ai déjà payé le prix. Le Père n'a pas de choix. Il est fidèle et il est juste. Dieu est fidèle. C'est sa parole. Il est fidèle face à sa parole. Et il est juste. Dieu ne serait pas juste s'il te demandait cela directement. Mais tu as besoin de la lumière. Parce que si tu ne vois pas cela, tu ne réalises pas. Alors, tu ne sais pas que c'est vrai. Et tu dis, j'oublie, je n'accepte pas. D'accord. C'est ton choix. Mais ce n'est pas seulement le pardon. Dieu veut te donner beaucoup plus que seulement le pardon. Il se donne lui-même en tant que ta vie. Tu vas devenir quelqu'un qui est né de Dieu, qui a reçu sa vie en toi, dans ton esprit, dans la partie la plus profonde de ton être, et tu vas devenir un enfant de Dieu. Que préfères-tu? Que préfères-tu? Et c'est gratuit. Il n'y a rien aujourd'hui de gratuit dans ce monde. Tout devient très cher. Y a-t-il quelque chose de gratuit ici en Corée? Et si c'est gratuit, probablement que ça n'a pas de prix, que c'est du chenil, c'est rien. Mais Dieu veut, parce que c'est son plan, en créant l'homme, il veut que tu deviennes son enfant. Si tu lis Genèse 1, crois-le ou pas, mais lis-le toi-même. Lorsque Dieu a tout créé, il a juste parlé et c'est venu en existence. Il a dit que la lumière soit et il y a eu la lumière. Il a tout créé, c'était très facile pour lui. Ça ne lui a pas pris des millions d'années, comme certains scientifiques le disent. Mais lorsque Dieu, en créant tout, c'était merveilleux. Mais quand il a fait l'homme, il l'a fait. Il l'a formé et il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Tu es né de tes parents, n'est-ce pas? Je peux dire qui sont tes parents parce que tu leur ressembles. Regarde Chuchang ici. Tu sais qui est son père. Pourquoi? Parce qu'ils se ressemblent. Maintenant, considère cela. Lorsque Dieu a créé le chien, il n'a pas dit je vais faire le chien à ma ressemblance, à mon image. Mais lorsqu'il a créé l'homme, il a dit je vais créer l'homme selon mon image, ma ressemblance. Pourquoi? Parce que la destinée de l'être humain est de devenir enfant de Dieu. Dans Éphésiens 1, il nous dit déjà qu'avant la fondation du monde, Dieu avait choisi l'homme pour devenir ses enfants. C'est pourquoi Dieu était d'accord de payer un grand prix pour te sauver. Lui-même est devenu homme à cause de son amour. N'aimes-tu pas tes enfants? Est-ce que tu fais tout pour les aider? Oui. Qu'en est-il de toi? Est-ce que tu ferais tout pour ta fille? Pourquoi? Parce que tu lui as donné la vie. J'espère que chacun de vous réalise l'amour de Dieu pour vous. Et c'est spécialement mis en lumière dans l'épître de Jean, la première épître. Il n'y a pas de limite à son amour. Jusqu'à aujourd'hui, je suis reconnaissant à mes parents. Mes parents avaient 13 enfants. Je ne sais toujours pas comment ils ont fait. Elle est 13 enfants reçus le Seigneur. C'est pas facile. Nous sommes tous différents. Et on leur a causé beaucoup de problèmes. N'as-tu jamais donné de problème à tes parents? Mais tout ce qu'on a fait, nos chers parents nous ont pardonné. Ils ont pris bien soin de nous. Ils nous ont donné tout ce dont nous avions besoin. Et si on lit Matthieu 6, on voit que notre Père céleste va prendre soin de tous nos besoins. C'est pourquoi dans 1 Jean 3, il est dit, voyez comme le Père nous a aimés. N'est-ce pas, John? Tu as 2 filles. Est-ce qu'elles ne t'ont jamais causé de problème? Assez. Je ne vais pas dire beaucoup, mais je dirais assez. Est-ce que tu les aimes quand même? Encore? Est-ce que tu les aimes encore? Pourquoi? Tu ne peux pas l'expliquer. Parce que c'est le lien de l'amour. Ça, c'est l'essence de 1 Jean. Ce n'est pas une doctrine, c'est une expérience. C'est une expérience. C'est pourquoi nous, chrétiens, aimons Dieu notre Père, parce qu'il a pardonné tous nos péchés. Nous étions des enfants désobéissants, une clique d'enfants désobéissants, donnant beaucoup de problèmes à nos parents. Combien plus de problèmes avons-nous donné à notre Père céleste? Nous lui avons désobéi souvent. Et la Bible nous dit que nous ne perdrons jamais notre salut. C'est appelé un salut éternel. Parce qu'il y a le pardon. Mais pour le pardon, il y a une condition. Dis-lui la vérité. Ne cache pas ton péché. Confesse-le-lui. Le problème avec les scribes et les pharisiens est qu'ils disaient « Nous sommes si bons, si merveilleux, nous n'avons aucun problème. » Vous vous souvenez du Seigneur qui a donné cette parabole? Une personne, c'est un pharisien, qui dit « Je suis si bon. » J'ai fait tant de bonnes choses. Il était juste à ses propres yeux. Et il y avait un pêcheur là qui se frappait la poitrine et disait « Père, pardonne-moi. » Et le Seigneur dit « Celui-ci est parti justifié par Dieu. » Que veux-tu faire? L'existence de Dieu ne dépend pas de si tu y crois ou non. Que tu le crois. Si tu le crois, il existe. Si tu ne le crois pas, il existe quand même. C'est le premier commandement, les 10 commandements. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Il n'y a personne, aucun autre Dieu que moi. Aucun autre Dieu. C'est Exode 20. Un jour, lorsque le Seigneur reviendra, le monde entier réalisera. Laissez-moi vous lire Zacharie. Je vais vous lire Zacharie. Zacharie, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Il a des problèmes avec son iPad. Il dit, je vais retourner à ma Bible papier. Alors, chapitre 14. Est-ce que c'est au chapitre 14? Non. Je parle des Juifs qui pleureront tous parce qu'ils l'ont vu, celui qu'ils ont percé. Est-ce que c'est chapitre 12? C'est au chapitre 12. Ça commence au verset 10. Donc, Zacharie 12, verset 10. Il parle des Juifs. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Verset 11. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adad-Rimon dans la vallée de Megiddo. Verset 12. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part. Cela parle de la deuxième venue du Seigneur. Et il parle de la vallée de Megiddo. Ce sera Armageddon. Lorsque le Seigneur reviendra, ils le verront, celui qu'ils ont percé. Celui qu'ils ont percé. Comment ça se fait qu'ils sauront? Il y a longtemps avant que le Seigneur vienne, il y avait ce verset. Comme dans les psaumes, le psaume 22. Le Seigneur revient. Que tu le veuilles ou pas, ça ne change rien, il vient. Et à sa deuxième venue, il sera le juge, pas le sauveur, mais le juge. Ainsi maintenant, prenons Apocalypse 1, verset 7. Il dit la même chose. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. C'est la même chose. Il dit la même chose que Zacharie. Voici, il vient avec les nuées. Il est couvert des nuages. Mais lorsqu'il viendra, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, les Juifs. Et toutes les tribus, cela se réfère particulièrement aux tribus d'Israël. Se lamenteront à cause de lui. C'est l'accomplissement littéral de Zacharie 12. La Bible est très cohérente. Mais c'est mieux que tu le vois aujourd'hui. Pas avec tes yeux physiques, mais avec tes yeux intérieurs. Et il faut le recevoir. Parce qu'il est réel, qu'as-tu à perdre? Que le Seigneur ouvre nos yeux, mais spécialement pour nous, qui sommes ses enfants, qui sommes son peuple, à Sion, dans son royaume. Il faut apprendre à l'aimer. Pas seulement à croire en lui, mais à l'aimer. Bien sûr, c'est bon de croire, mais c'est encore mieux d'aimer. Parce qu'il a fait tellement. Et Jean nous dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Est-ce que tu aimes ton père? Pourquoi? Parce qu'il t'a aimé en premier, n'est-ce pas? Imagine que tu vives dehors, tout seul. Est-ce que tu serais heureux, Lévi? Certainement pas. Tu l'aimes parce qu'il t'aime. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. L'œuvre de salut de notre Seigneur Jésus-Christ est grandiose. Le motif de Dieu qui accomplit tant pour toi, moi et ton, nous tous, c'est son amour pour nous. Ce n'est pas bon si nous ne connaissons pas son amour pour nous. C'est pourquoi il est si bon de chanter ce chant. Seigneur Jésus, tu es notre premier amour, notre meilleur amour. Sans cet amour, tu ne peux pas bâtir Sion, tu ne peux rien bâtir. Éphésiens chapitre 4 nous dit que l'Église s'édifie elle-même dans la doctrine. Non. Dans les enseignements? Non. Dans les œuvres? Non. En quoi? Dans l'amour. Même une famille ne peut pas être bâtie par ceci, cela. Une famille est bâtie dans l'amour. Sans amour, ce monde serait un endroit terrible où habiter, où vivre. Mais combien plus à Sion, dans l'Église. Ainsi, louez le Seigneur. Je crois qu'on s'arrête ici. Merci pour ta question.